France Culture.
À voix nue, production Corinne Renoux-Nativelle, cette semaine avec...
Jean-Paul Dubois, qui un jour ou l'autre finira bien par arrêter d'écrire.
Quatrième épisode, parfois j'écris tout seul. Deuxième volet, vous plaisantez, monsieur Dubois. Bonsoir Jean-Paul Dubois,
nous
voici de retour dans votre maison de Toulouse. Hier, vous nous avez parlé de la façon dont vous avez commencé à écrire des livres en parallèle de votre métier de journaliste. Nous poursuivons aujourd'hui notre échange sur votre travail d'écrivain. Vous avez dit qu'écrire est la chose la plus déraisonnable et la plus irrationnelle qui soit. Pourquoi ?
Parce que on a inventé le cinéma. Et que pour moi, la narration... Aujourd'hui, c'est le cinéma. Enfin, aujourd'hui, depuis longtemps, c'est le cinéma qui contient à la fois le son, l'image, la musique, donc la voix, et l'écriture. Parce qu'un film écrit, c'est aussi beau qu'un livre. Tout dépend qui l'écrit, comment il est écrit. C'est, pour moi, c'est le livre ultime. Depuis que je suis gamin, j'ai ça en tête. Je me dis, qu'est-ce qu'on s'emmerde à faire des livres ? Alors que le cinéma est un immense livre sans fin qui est capable d'être lu simultanément dans une salle par des centaines de personnes. Ça a un côté magique. Il y a une force dans l'image et dans le cinéma que le livre peut tenter d'approcher, mais je trouve que la propulsion que vous avez, je parle de vrais films, je ne parle pas de divertissement, là on est dans un autre genre, vous évoquez la littérature et moi j'évoque la littérature cinématographique que je mets exactement sur le même plan, c'est-à-dire l'écriture. Il y a des films qui sont écrits exactement comme des livres. Vous avez des voix off. Tous mes livres commencent par des voix off. Et je les fais parce que je vois le film que je suis en train d'écrire. Ça peut paraître grotesque ou ridicule de dire ça, mais j'écris toujours un film. Toujours, toujours, toujours. Je fais les plans, je vois la tête des types, je vois les éclairages, je vois les... C'est une chose qui se fait... Peut-être c'est un truc de génération, mais j'ai ingurgité tellement... de films. Quand j'étais gamin, j'allais aller au cinéma 3 fois par semaine à peu près. J'ai vu le pire, j'ai vu les meilleurs, j'ai vu les Gauloises bleues, je regardais les Gauloises bleues de Cournot, je regardais ça. J'avais lu que c'était un film de génie, je ne comprenais rien, mais je me délectais de ça. Il y avait une... C'est un livre abordable, quoi. À l'époque, c'était 3 francs 6 sous, c'était rien. Et vous aviez tout un monde, quoi. Le livre, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus... Peut-être que ça ne s'adresse pas non plus... au même moment. C'est-à-dire, vous voyez un film, et à ce moment-là, c'est ce film que vous devez voir, et à un autre moment, vous allez voir le livre. Je dis voir le livre parce que vous allez le lire comme un film. Il y a une question de moment, je crois aussi. C'est-à-dire, on a chacun ses moments cinéma et ses moments livre. Mais je crois que, pour moi, le livre aboutit. Si on me dit aujourd'hui, tu vas mourir, tu vas faire un truc avant. Je vais faire un film. Voilà. Je vais y passer le temps qu'il faut. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais exactement comme quand j'ai fait ma maison. Vous savez comment tout ça est assemblé, comment... Et le film, ça va donner ça, ça va donner cet apprentissage. C'est beaucoup plus physique, un film, qu'un livre, pour moi.
À la fin de L'Origine des larmes, paru en 2024, vous placez un générique de fin. Alors, à quand ce premier film, Jean-Paul Dubois ?
Jamais je ferai de film, bien sûr que non. J'ai le sens du relatif et du ridicule. Mais je me suis offert ce truc-là, et au dernier moment, c'est venu. Tous les gens que j'aime beaucoup, que j'aime bien, que j'ai aimés, qui sont morts, d'autres qui sont vivants, je les ai mis là parce qu'ils faisaient partie du film que je venais de tourner, du petit film que je venais de tourner, peut-être de rater. Voilà, c'est un film dans un livre. J'ai essayé de faire de compresser tout ça là-dedans. Il y a plein de livres que j'ai déjà tournés. Mais je les ai faits, ils sont quasiment tournés, mais je les ai vus aussi, donc ça m'intéresse plus. Le nombre de nuits où j'ai fait du cinéma, c'est extraordinaire, c'est des trucs, c'est les plans, je faisais les plans. Je prenais la caméra, la grue, avant que n'existent les drones. Après, il y avait des prises de vue aux drones, qui sont toujours du côté de la côte basque. au-dessus du Reichsgiebel, avec Handaï en dessous, la Bidassoa. Voilà, c'est des trucs qui reviennent. J'ai remarqué un truc, justement grâce à ce film mental que je fais, que j'ai fait mourir, se suicider, dans deux livres différents, les deux hommes au même endroit. L'un du côté espagnol, l'autre du côté français, en vis-à-vis. Il faut être vachement gonflé pour faire un film quand on n'a pas... Déjà, pour faire un livre, il faut être gonflé, mais un film... Moi, le film, si le livre, si je me rate, c'est pas grave. Il y a que moi. Je passe pour l'imbécile. Je dirais pas que j'ai l'habitude, mais c'est bon, c'est un sport naturel. Mais si vous ratez un film, vous embarquez avec vous beaucoup de gens, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Vous pouvez pas vous permettre de rater ça. Donc moi, personne ne me fera jamais confiance. Donc, et moi le premier. Mais c'est quand je vois un truc, je sais pas, certains films de Wenders, je me dis, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu. L'ange qui redescend sur Terre et qui fume une cigarette en buvant du café, qui dit, putain, c'est ça la vie. La cigarette à Berlin, la cigarette et le café. Juste ce moment-là, je dis, putain, c'est un truc que tu aurais pu faire. Des phrases qui reviennent comme ça dans des films, c'est des phrases de cinéma. C'est fait pour ça, quoi. C'est fait pour être... C'est des voix off, c'est des gens... C'est un bonheur, le cinéma, pour moi. C'est un truc, c'est un... Et même une... J'ai vu des trucs, des fois, mais ça fait rien. Ça fait rien.
Plusieurs de vos livres ont été adaptés au cinéma, Jean-Paul Dubois. Et, il y a eu Kedendi et moi, de Sam Karman. Il y a eu aussi Le fils de Jean, de Philippe Hioret. L'adaptation de Si ce livre pouvait me rapprocher de toi, adapté, est-ce que c'est forcément trahir ?
C'est autre chose. Il faut pas demander, je crois qu'il ne faut pas me demander à moi un avis là-dessus, parce que c'est un avis qui n'a aucun intérêt. Je suis le dernier capable de dire si quelque chose... Ce qui m'étonne toujours dans le cinéma, dans une adaptation, quand les réalisateurs viennent acheter des droits, ils vous rencontrent toujours, on a des conversations le plus souvent très agréables et tout, et je leur dis toujours, ce livre, il n'est pas terrible. Le seul truc que je vous demande, faites ce que vous voulez, mais montez une marche. Vous ne ferez peut-être pas un truc gigantesque, mais vous ferez toujours un truc un peu mieux que ce que j'ai fait. Juste montez la marche. Et souvent, parce que le cinéma, souvent, n'est pas miscible avec certaines histoires, Philippe Hioret a eu un truc formidable. Il a fait un film à partir d'un de mes livres qui n'existe pas. Mais il me l'a dit. Il a adapté « Si ce livre pouvait me rapprocher de toi ». Il a fait cette adaptation, et puis il m'a dit « Je ne suis pas arrivé, j'arrivais pas. Il y avait des trucs qui n'allaient pas, j'arrivais pas à adapter ça. » Alors j'ai fait une autre histoire. Mais je l'ai appelé différemment, mais c'est votre livre. Et j'ai voulu vous garder dans le livre, parce que c'est grâce à vous que j'ai fait cette histoire que je n'aurais peut-être pas faite si je n'avais pas lu. Je trouvais ça formidablement honnête, sympathique. Je trouvais ça très bien. Vouloir adapter fidèlement un livre, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Est-ce que c'est rester, recopier un livre ? Descendre à la cave, ça n'a aucun intérêt. Tout le monde peut le faire. Là, il y a un cinéaste qui essaie d'adapter un de mes livres depuis 15 ans. Il a tout fait. Les États-Unis, le Canada, la France, les coproductions. Et chaque fois, au dernier moment, l'acteur est plus disponible. Il y a un accident, il y a ceci, il y a cela. C'est un truc maudit. Et je me dis qu'un jour, peut-être, ce livre qui est passé inaperçu...
Lequel ?
Hommes entre eux. Qui a eu une petite vie, on va dire. Voilà. Porté par un type qui a une telle force de vie pour continuer à s'obstiner, à faire ce truc. J'ai lu le scénario. Vous vous dites, ça mériterait ça, quoi. Vous savez, ces films maudits, il y a des livres de trucs maudits que des mecs font pendant 35 ans et tout d'un coup, boum, tu sais pas pourquoi le film se fait. Dans la fabrication d'un film, il n'y a vraiment rien d'intéressant. C'est chiant. Les acteurs sont pas toujours des gens comme on le croit. Les réalisateurs sont pas aussi brillants qu'on le dit. L'auteur est pas aussi raffiné qu'on le croit. Enfin, c'est un assemblage de trucs qui est pas formidable à voir, à commencer par moi. Et quand c'est fini, parfois, de ce truc qui ressemble à rien, qui est assemblé avec de la glu, comme ça, on colle un bout, enfin, il y a des rails, des trucs, vous arrivez, il y a une... Ah, la grâce. Ça, c'est magique. Et c'est à travers le cinéma que je peux parfois faire des livres. Water, Water Everywhere, Nor Any Drop to Drink, c'est, je vous le fais à la française avec l'accent du sud-ouest en plus, c'est la base de l'origine des larmes.
Il faut rappeler cette référence, cette citation.
Cette citation, c'est le début du film, et c'est un type dont on ne sait pas ce qu'il est, qui est au Caire, de mémoire, hein, dans le cabinet d'un psychanalyste apparemment. C'est un Européen, le psychanalyste est un gros type qui transpire. Les images sont jaunâtres, un peu comme des lumières prises pendant une tempête de sable, un peu le cabinet, comme ça.
Le titre du film.
Element of Crime. Element of Crime. On comprend que le type a tué quelqu'un, mais on ne sait pas quoi, ou que quelqu'un a été tué. Et il explique que l'Europe vit sous les eaux. C'est tout. Et on voit ensuite l'Europe qui est sous les eaux, entièrement sous les eaux. Et l'un des deux, je pense que c'est le psychanalyste, dit « Où le patient, il y a de l'eau partout et pas une goutte à boire ». C'est de la poésie anglaise qui est reprise dans ce film, dans ce moment-là, qui est enchâssée dans cette histoire. C'est une mèche qui est rentrée et qui n'est jamais ressortie. C'est une mèche de cinéma, ça. Vous le lisez, moi je l'ai lu 100 fois, ce truc, il n'y a rien, quoi. Mais ça va devenir, par la mise en scène du début de mon livre, l'angoisse qui va l'habiter tout le temps, de cette eau, de cette... de la mort qui est là tout le temps, de ce compagnonnage, de cette incertitude de chaque instant. C'est, voilà. Je sais pas comment vous dire. Le cinéma est une fabuleuse machine à réveiller cette vase qui est en nous. Le pouvoir des images va faire vibrer quelque chose qui va vous donner l'envie, je pensais à Mortelle Randonnée. J'ai fait un livre, après avoir vu ce film, qui s'appelait « Maria est morte ». Et c'est l'histoire d'un homme qui perd sa fille. La dernière image du film, je l'avais presque oubliée, et là j'ai tout reconstitué a posteriori. C'est un type qui s'imagine qu'il perd sa fille, et il passe un portique, et il dit « Et quand j'ai passé le portique, j'ai su que j'étais mort ». Juste cette phrase-là, avec l'image, et ça s'arrête comme ça. C'est ça le cinéma, c'est savoir arrêter, trancher d'un coup. Une phrase peut faire ça, mais quel travail pour arriver à cette sécheresse qui va vous bouleverser, quoi, qui va vous dire « maintenant c'est fini et ça finit à ma façon voilà. ».
Dans « Tous les matins je me lève » surgit Paul Ackerman, le premier d'une longue série de Paul. Pourquoi ce prénom? Est-ce votre double de papier, Jean-Paul Dubois?
Pourquoi le prénom? Parce que c'est la moitié de mon prénom. Comme c'est toujours la voix off qui raconte et que c'est moi qui raconte, je préfère entendre ma voix et imaginer que c'est moi qui suis dans le film. Voilà, c'est-à-dire je me connais, je sais, c'est identifié, quoi. Et les réactions sont souvent mes réactions, les situations sont mes situations, les points de vue sont souvent mes points de vue, parce que ça simplifie les choses. J'ai fait quelques livres à la troisième personne, pas beaucoup, un ou deux. Et je sais, j'ai toujours été mal à l'aise de la distance. Là, c'est Superman. Qui est Superman? Vous mettez la cape, vous faites ça, et ça part, et vous partez. Donc, il y a une nécessité de garder... Bon, il y en a plein comme ça. Roth faisait ça. C'est de l'assimilation qui permet plus de proximité, voilà. Des fois, j'ai eu envie de changer. Je n'ai jamais fait, parce que j'ai eu la trouille. Je me dis, ça ne va pas marcher. Mais on revient toujours au même fumée d'Indien. C'est que je me dis, fais pas le con. Si Paul n'est pas là, Imagine, le mec, tu l'appelles comment? Alors là, je fais ça souvent avec les noms, qui sont souvent des noms de joueurs de rugby, de sportifs. Là, c'est très identifiable. Mais jamais je joue avec le prénom, parce que c'est la crainte, quoi. Vous dites, c'est si faux, tu vois, ça va être ce jour-là. Puis là, je vais pas pouvoir appeler mon père pour lui dire, écoute, je t'ai jamais rien demandé. Il va me dire, si, t'as déjà fait.
Qui est le Jean de Jean-Paul que vous laissez dans l'ombre?
J'aime pas mon prénom. C'est presque littéraire ce que je vais dire, mais je devrais pas. C'est quelqu'un qui a pas à apparaître. C'est-à-dire, j'aurais aimé m'appeler Paul, je pense. Mais c'est vrai que l'autre existe aussi. C'est l'inverse du livre, L'origine des larmes. C'est le jumeau embarrassant. Les prénoms, c'est gênant, parce que j'y suis pour rien, quoi.
Il y a les Anne aussi, les Anne, Anna, qui reviennent de livre en livre, qui longtemps ont été la figure de l'épouse, la compagne, et puis qui sont devenues les mères dans vos romans.
Il y a une chronologie psychanalytique qui s'impose. Non, c'est toujours créer un univers familier pour moi. Voilà. Paul et Anna, à une époque, ça avait du sens. C'était identifiable.
Bien que souvent sombre, Jean-Paul Dubois, vos livres ont aussi une part d'humour. Comment définissez-vous votre humour? À quoi sert-il?
Il sert à me faire rire. Je ne suis pas nul en humour. Parce que je sais me débrouiller pour écrire des trucs qui peuvent être drôles, et parce que j'ai ça en moi. Quoi. Je crois que la connerie de mon père jaillit en moi parfois. C'est la porte qui s'ouvre et Charles Leroy, notre empereur Magne, s'est en tout plein. Clac! Et la porte qui se referme. Ça, c'est un gag. Et qui me trotte dans la tête depuis toujours. Il n'y en a pas eu un, il y en a 50 comme ça. Donc, c'est une marque de fabrique. Alors, c'est un type complètement très peu drôle. L'histoire la plus drôle, je crois, d'où me vient mon amour de l'humour, c'est une forme d'humour juif. Le copain de mon père, son vrai copain, s'appelait Goodman, et il était antiquaire. Et j'adorais ce type. Il était grand, il était svelte, élégant, raffiné. J'étais admiratif. Pour moi, c'était véritablement une vedette cinéma, quoi. Et en sortant de l'école, j'allais parfois dans sa boutique l'embrasser. Tout petit, tout gamin, quoi. Et un jour... Il me dit, tu sais, il faut que je te dise une chose, puis n'en parle à personne. Ta vraie maman, c'est moi. Et moi, je rentre à la maison. Et là, dans ma tête de gamin, tout travaille. Je dis, pourquoi j'ai deux mères? Et pourquoi Goodman est ma mère? Il s'appelait André. Je tais tout ça, je dis rien. Et un jour, peut-être deux mois après, ça me bouffait la tête, ça. J'arrive et je vais voir ma mère en larmes. Et je lui dis, maman, il faut que je te dise un truc. Pourquoi j'ai deux mamans? Et elle me dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je lui raconte, je lui dis, j'ai deux mamans, j'ai toi, bien sûr, et puis j'ai André. Et elle me dit, qui t'a raconté ça? Ben, je lui dis, c'est André. Et là, ma mère, ils avaient échafaudé ça avec mon père. Donc, vous voyez le degré d'humour pervers, tordu, con. Mais je me suis rendu compte que les choses tordues, perverses, pouvaient être extrêmement drôles. J'ai réveillé mes enfants quand ils étaient petits, à 4 heures du matin, pour leur dire, hey, les enfants, debout, on va à l'école. Ils s'habillaient. Et là, ils voyaient la pendue. Truc de salopard. J'ai dit à ma fille qu'on l'avait adoptée. Sérieusement, un jour. Parce que je dis, t'es jamais posé des questions. T'as les yeux bleus, t'es blonde. Regarde. Ta mère, ton frère, moi, yeux marrons, on a des yeux. Elle était effondrée. Et alors, aujourd'hui, c'est une blague entre nous, évidemment. Mais cet humour-là, les blagues me font pas rire. Je me souvenais toujours d'un type qui passe devant une branche et qui photographie et qui dit à son copain, lui, pourquoi tu photographies la branche? Parce que cette branche, tu vois, mon père s'est pendu dessus. C'est émouvant, mais c'est hyper drôle. Vous imaginez, c'est un mélange, c'est complexe comme truc. C'est limite, quoi. Et ça, j'adore ça. Et quand vous pouvez arriver à faire ça dans un livre, parce que là, le cinéma est moins fort que les livres. À l'économie, vous pouvez faire mieux que le cinéma. Dans les dialogues aussi. Un livre sombre, même triste, il faut qu'il y ait quelque chose dans l'origine des larmes, il y a le détail de la housse mortuaire, l'épaisseur, le type de fermeture. Et l'accumulation de techniques, de technologies avec la vitre pour regarder le mort, comme ça a été demandé pendant le Covid, pour que la famille les reconnaisse puisqu'on ne pouvait plus entrer en contact avec eux. Donc cette accumulation de choses fait que vous basculez dans un absurde. C'est le contrepoint de la narration dramatique d'un livre. Et les rois du monde, c'est les frères Cohen. Personne ne fera mieux. C'est dans tous leurs films. Il y a de l'absurde. Cet humour-là, c'est vraiment c'est la classe, quoi. C'est dur, l'humour, hein. C'est un truc, il faut faire attention. C'est de la nitroglycérine, c'est à manier. J'adore rire. C'est un truc... avec ma femme, on passe notre vie à rire. C'est un carburant aussi de la vie. Si vous ne le mettez pas dans les livres, moi, ça me manque. Mais c'est mon côté, peut-être, rustique, quoi.
En 2005, Jean-Paul Dubois, vous obtenez le prix Fémina pour Une vie française. Vous prenez aussitôt la décision de quitter le Nouvel Observateur. Pourquoi ?
Pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que j'ai trouvé le moyen de vivre plus en adéquation avec ce que j'ai dans la tête. C'est-à-dire ne plus travailler, ne plus avoir le téléphone qui sonne pour qu'on me demande quelque chose. Même si c'était très confortable et tout ce que vous voulez. C'est l'indépendance, c'est être... J'ai pris ma retraite à cet âge-là, quoi, 2004, c'est-à-dire à 54 ans. C'est l'âge idéal. C'est-à-dire que là, vous allez organiser votre vie en écrivant des livres. Puisque vous avez la chance de pouvoir vivre de ce métier qui est déjà un miracle absolu, c'est la paix intérieure. Parce qu'en plus, ce livre, je ne le sentais pas du tout, quoi. Le miracle fait qu'il a eu sa chance, et moi aussi. Alors, j'ai jamais eu la trouille de me dire si ça s'arrête. Alors que je l'ai au début de chaque livre. Mais je me suis dit, là maintenant, bon, tu vas gagner ta vie en écrivant des livres. Voilà. Tout simplement. Et je crois que c'est très compliqué de vivre comme ça, de prendre la décision de vivre comme ça, mais c'est très facile à vivre. Moi, j'y avais pensé bien avant, hein, qu'à quitter le journalisme pour faire des livres. Mais c'était tellement ric-rac que vous dites... J'avais des enfants et tout ça, donc vous avez des... Quand vous êtes seul, ça va, c'est simple, mais il y a des moments où les décisions sont plus compliquées. Il faut être plus courageux que je ne le suis pour les prendre. Mais après, quand vous passez à... C'est très curieux. C'est très curieux, les seuils. Vous passez de 1 à 6, 7 dans les livres. C'est inexplicable, incompréhensible, ça n'a pas de sens, c'est pas justifiable. Et vous vous rendez compte que le même type qui avant se disait « comment je vais vivre ?» là, tout d'un coup, se pose même plus de questions et fait des livres naturellement. C'est totalement injuste. Voilà. Le hasard et la chance. Je ne peux justifier ce que j'ai fait que comme ça. La chance et le hasard. Parce que vous pouvez avoir la chance, mais le hasard va faire qu'à un moment donné... Les choses vont basculer sur un rien. Vous savez pas pourquoi. Une vie française, c'est un truc. Vous pouvez pas l'expliquer. Et tout d'un coup, vous avez le roman générationnel, des concepts qui. Moi, j'ai pas du tout fait ça. C'était un truc. C'était raconter ma vie, la vie qu'on avait, ce que ça avait été un truc. Et vous savez ce que j'ai fait quand ce livre est sorti? J'ai appelé Olivier, qui est mon éditeur, qui est le mec à qui je dois la moitié de ma vie. Je l'appelle et je lui dis « Olivier, celui-là, c'est une merde ». Et je lui dis ça parce que Olivier m'avait dit un jour, c'est une phrase extraordinaire pour un éditeur, « Il peut m'arriver d'éditer de mauvais livres d'auteurs que j'aime parce qu'ils ont fait de très bons livres ». C'est gonflé quand même.
Et c'est Olivier Cohen des éditions de l'Olivier.
Ouais, Olivier Cohen, qui est un type, je ne dis pas ça du tout parce qu'on a passé toutes ces années ensemble, mais c'est un confort de travailler avec lui et dans cette maison que je n'aurais jamais eu ailleurs. Je le sais. C'est l'Observateur en tout petit. Voilà. C'est une petite famille, mais vous êtes à la maison et vous travaillez en confiance et les livres s'en ressentent. Parce que les livres avant et après sont pas les mêmes. Il y a une autre exigence. Mais d'abord vis-à-vis de moi-même. Parce que je rentre dans la maison d'un type que j'estime, qui a fait des livres que j'ai lus et qui m'ont ébloui. Et donc je me dis, là, il va falloir se tenir à carreau, quoi. Il va falloir s'appliquer. Et je commence à m'appliquer, je le sais à partir de quel moment, différemment. Ce sont des choses qui sont difficiles à rendre, comme ça, dans une conversation, mais qui sont tangibles dans le cours d'une vie qui est la vôtre. C'est-à-dire que je sais tout ce que... Et si j'ai d'ailleurs tout abandonné, c'est un peu grâce à lui aussi, parce que je l'avais dans ma tête derrière. Je savais qu'il allait, s'il y avait un problème, me soutenir, m'aider. C'est énorme. Mais vraiment, c'est quelque chose de... Moi, je l'ai toujours eu dans l'esprit, ça. J'avais un type qui était là, à mes côtés. Si jamais j'avais un problème, je pouvais compter sur lui. Et ça, ça donne des livres différents. C'est-à-dire que lui, voilà un autre type qui a fabriqué mes livres. Vous savez, des dettes, il y en a... Si vous êtes honnête intellectuellement avec vous-même, des dettes comme ça, vous apercevez que les livres, finalement, vous les faites, mais vous les faites avec tellement de monde que le générique de fin de L'origine des larmes, il devrait être beaucoup plus long que ça. Beaucoup plus long que ça. Parce que ça part du début, pratiquement jusqu'à votre dernier livre. Du début, je veux dire, de votre naissance. Le générique, il commence là. Et c'est vachement émouvant de sentir ça, de savoir ça, même si vous êtes le seul à le savoir, mais que tous ces gens-là vous ont... les uns donner une façon de voir, les autres une façon de vous tenir, les autres une façon de sentir, l'autre un clavier, l'autre micro, l'autre... Et vous apercevez que finalement, tout ça, c'est ça qui fait le type qui fait les livres. Et le type qui fait les livres, il les fait grâce à ça. Et c'est assez joyeux comme truc, justement, de ne pas se sentir seul. Moi, ça m'aide souvent, ça. Quand je fais un livre enfermé dans le noir, ou enfin dans le dernier était dans le noir, pendant 30 jours, c'est vachement agréable d'avoir ces petits fantômes bienveillants, quoi. Et ces gens qui savent, dont vous savez qu'ils vous lâcheront pas, quoi, d'une manière ou d'une autre, qui vous aideront. C'est formidable de savoir qu'on peut être aidé. Il y a deux trucs, il y a deux mots que j'aime, c'est aide et guérir. Je rêvais qu'un jour Pivot me demande quel est votre... Le mot rêvé de la langue, le mot que vous préférez de la langue française, et c'était guéri. Parce que c'est le seul mot que vous pouvez dire avec une joie terrible et entendre avec bonheur. Parce que vous êtes guéri et je vous ai guéri dans les deux sens. Et c'est ça, les deux apportent une formidable joie. Et c'est pour moi le plus beau mot. Et je pense que je l'ai pas utilisé souvent, j'aurais dû.
Merci beaucoup Jean-Paul Dubois.
Merci à vous.
On se retrouve déjà demain pour le dernier volet de cette série avec vous.
À demain.
À demain. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, réalisation Jean-Philippe Navarre, une série de Corinne Renoux-Nativelle, disponible sur le site et l'application de Radio France.